19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, vous êtes sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le vendredi 28 février, c'est l'heure de Time Sport. Que vous soyez dans les transports ou à la maison, restez bien à l'écoute de Beurre FM comme chaque soir de 19h à 20h dans votre émission Sport. Avec vous, chers auditrices et auditeurs, on réagira avec toute l'équipe, avec vos appels, en composant le 01 53 48 3000 et aussi sur la Twittosphère pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Revenu de l'émission, Bernard Blacard des Crocos de Nîmes. C'est un match à part, et oui, contre l'Olympique de Marseille de Villas-Boas. Arsenal éliminé par l'Olympiakos après une folle prolongation. Lyon-Saint-Etienne, le grand derby de cette Ligue 1 Conforama, la Ligue des Talents. Le coup d'envoi de ce derby se déroulera du côté du Groupama Stadium ce dimanche soir. Et aussi les deux dernières étapes de l'UAE Tour aux Émirats Arabes Unis annulées en raison du coronavirus. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi, pour m'accompagner dans cette émission, on aura la ravissante Alison Nkunku et aussi le coach Tollet, sans oublier Simon Balachef, mais aussi El Presidente, Kamel Aïd Keira. Comment ça va, Kamel?
Toujours un plaisir d'être parmi vous.
Et nous aussi, Kamel, de l'avoir avec nous.
C'est toujours un plaisir avec les temps qui courent. On est encore vivant et on est encore en santé, Inch'Allah. Et puis, surtout, un bonsoir à nos auditeurs, nos auditrices. Et courage et surtout, ne cédons pas à la panique, s'il vous plaît.
Ouais, surtout pas de panique. Allez, tranquillement, la dernière de la semaine sur l'antenne de Beurre FM avec toute l'équipe de Time Sport. Et on va s'attarder. Allez, on va aller dans le sud de la France, plus précisément du côté de Nîmes, le Stade des Costières, là où on nous écoute avec le 104.6 sur la bande FM.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, l'entraîneur des Nîmois, privé des défenseurs Anthony Briançon et aussi Florian Miguel, suspendu, a souligné la singularité du match contre les Marseillais ce vendredi soir pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Conforama en raison du penchant des fans gardois pour l'Olympique de Marseille. Eh oui, Marseille à moins d'une heure de Nîmes. Marseille joue-t-il à domicile au Costières? Justement, avec le coach Tollet qui vient d'arriver avec nous.
Bonsoir tout le monde, un plaisir d'être là encore une fois. Alors écoutez, pour en revenir à cette rencontre entre Nîmes et l'Olympique de Marseille, déjà historiquement, il faut savoir que lorsqu'on est dans le sud et qu'on connaît un petit peu le football du sud de la France, en général on est soit supporter donc de Nîmes, de Montpellier, de Monaco, Nice, de ce que l'on veut. Et ensuite, en général, les supporters nîmois sont aussi supporters de l'OM. Ça fait partie un petit peu de la
culture. T'as pas foncé à côté.
Maintenant, après,
même jusqu'à Montpellier.
Donc c'est ça. Maintenant, après, historiquement, Nîmes a été un club solide du football français, mais il y a de cela une vingt-trentaine d'années. Et c'est vrai que t'avais déjà des derbies du Sud, Nîmes-Nice, Nîmes-Cannes, Nîmes-Marseille, qui étaient plutôt rugueux, on va dire, dans les années 60-70. Donc voilà, donc ça reste un derby du Sud. Et puis là où c'est intéressant, c'est que tu as une équipe nîmoise qui, l'air de rien, est deuxième de cette Ligue 1 depuis l'année 2020, derrière le Paris Saint-Germain. Et puis une équipe de Marseille, voilà, qu'on pensait être partie assez tranquillement sur cette deuxième place et qui a été rappelée à l'ordre au Vélodrome face à Nantes samedi. Donc ça sera un match, je pense, compliqué pour les Marseillais, mais voilà, après tout dépend d'eux aussi.
Ouais, Kamel, justement ce vendredi soir, c'est un derby quoi.
Oui, c'est un derby.
C'est notre département.
Ah oui, ça va être un très bon match de football. Ça va être animé. C'est comme le disait Claude. Hein, c'est avant. Il avait oublié le fameux Toulon quand il était en
Toulon
D1.
Aussi, pardon,
c'était des matchs très très chauds. Je me rappelle. C'était incroyable. Donc là, ça va être. Déjà, moi, ce que j'aime bien, le stade des Costières, parce que c'est un vrai stade de foot. À l'anglais, c'est petit. C'est on sent la pression du public. Donc là, je pense que l'OM va avoir la pression. Énormément de pression. Après, ça va être un super match. Pourquoi ? Parce que l'OM a perdu à domicile contre Nantes. Et ils ne doivent pas se perdre ou faire un mauvais résultat ce soir parce que ça risque de imaginez, ils vont perdre 6 points. Ils risquent de perdre 6 points en deux journées de championnat. Ça va être compliqué pour la deuxième place parce qu'après, la pression va être sur eux. Et Nîmes, ils ont une obligation de gagner parce qu'ils jouent le maintien. Mais moi, ça va être un très bon. Après, moi, Marseille, je pense, ils sont meilleurs à l'extérieur quand ils doivent pas faire le jeu qu'à domicile quand ils doivent faire le jeu. Et ça, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, ça va être un match très, très difficile. Une bonne ambiance. J'aurais bien aimé y être en tant que spectateur parce que je pense que c'est vraiment les vrais matchs de Ligue 1.
C'est
les vrais bons matchs à voir.
Et Nicolas qui est là-bas, Nicolas Vidal. Ouais,
c'est les vrais bons matchs à voir. Il va y avoir de l'intensité. C'est sûr qu'il va y avoir des remises en question de l'arbitrage, des fautes, de la VAR qui va s'y mettre. Mais ça va être un spectacle avec un scénario non établi. Et ça, c'est ça qui fait la beauté de ces matchs-là, qu'on ne s'y attend pas, quel que soit. Pourtant, le Nîmes joue est quasiment en bas, mais ça n'a rien à voir avec le classement. C'est vraiment, c'est comme si c'était Toulon, c'est des super matchs. Et voilà, et pour ça, sincèrement, ça vaut le coup de regarder la Ligue 1, des talents pour ça.
Ouais.
Et ça va faire moi, j'espère.
Ouais, ce soir, c'est la Ligue des talents. Hein, des autres fois, quand même, c'est pas trop la Ligue des talents, selon toi.
Non, c'est des matchs comme ça. Parce que si ça avait été un match Bordeaux-Montpellier, non, c'est voilà, restez chez vous. Restez confinés chez vous, j'aurais dit.
Ah oui.
Bah oui. C'est pas des matchs.
C'est à la maison, mais bon, on peut le regarder, ces matchs.
Faut se souvenir que l'année dernière, l'OM de Garcia s'incline pour la première rencontre de Ligue 1 à domicile pour le retour des Nîmois 3-1. Et ça a été le début d'une catastrophe, d'une saison catastrophe pour l'OM. Donc ouais, c'est toujours en terrain hostile. Mais c'est vrai que comme je rejoins Kamel, c'est un peu ces bons vieux matchs de Ligue 1, même si la qualité est pas forcément au rendez-vous. Voilà, ça sent quand même le parfum D1 à l'époque.
À l'époque D1, ouais, quand ça attaquait au niveau du genou, etc. Et qu'il y avait de l'intensité. Et c'est ça. Et comme, mais là où j'ai confiance en Marseille, c'est que l'OM est à l'extérieur est mieux qu'à domicile.
Ouais.
Depuis le début de la saison, tous les gros mauvais résultats que l'OM a fait, c'est à domicile. Et donc à l'extérieur, on l'a vu à Lille, on l'a vu. Donc là, il va y avoir de l'intensité, quoi. Ça va être un vrai combat et c'est un match à voir. Après que le meilleur gagne, mais bon, moi j'ai ma petite, je suis marseillais, je le dis, et je préfère.
Ouais,
je suis pour Marseille. Ouais. Mais en tout cas, ça va être un bon match.
Un bon match, on l'espère. Simon Balachev justement qui nous a rejoint. Comment ça va, Simon?
Buenas noches, bonne noche à tous. Je l'ai pas dit, donc faut bien que je.
Ouais, mais bien sûr, mais tu as raison. Surtout par ces temps pluvieux, hein, dans la capitale française. Tu nous rappelles un peu ce soleil, quoi. Envahissant Ibérica, Marseille. Nîmes, Marseille, les Nîmois et les Crocos qui reçoivent ce Marseille de Villas-Boas. Et l'OM va-t-il se relancer justement du côté des Cossières?
Moi je trouve nos amis, ils ont raison de rappeler ces vieilles joutes de D1 des années 90-80 avec les chaussettes baissées, les gros tacles, les maillots trop grands, etc. Passer la nostalgie, Blackard, oui en effet c'est un match à part contre l'OM.
Mais les bons Blackard.
Pour beaucoup d'équipes, c'est un match à part contre l'OM. Et surtout les équipes du Sud-Est. Hein. On pense évidemment à Toulon. Quand je suis arrivé, Kamel parlait de Toulon. Mais bien évidemment, Montpellier, Nice, Monaco. Quand on joue l'OM, c'est l'OM. C'est la capitale footballistique du Sud. Désolé pour les Niçois et les Monégasques. Et du coup, pour les battre, il y a une enjeu de suprématie sur la table. Après, Blackard, lui, sort ça. Mais son objectif, c'est pas l'OM, c'est pas le match à part contre l'OM, c'est le maintien, c'est ça qui est important pour les Nîmois et c'est ça je pense qu'il a en tête. Et surtout je pense que là-dedans, en rappelant ce côté culturel des Nîmes OM, il avait surtout envie de flatter les supporters nîmois qui sont un peu fâchés contre la direction des Crocos en ce moment.
Ouais.
Parce que justement au match aller contre l'OM, ils avaient comment dire, les supporters des Crocos avaient été parqués sur une aire d'autoroute par les CRS, il y avait eu des incidents, il y avait eu des blessés et ils accusent leur direction de ne pas les avoir soutenus.
Ouais. Tant de choses quand même, tant de rivalité aussi entre ces deux clubs. Mais c'est vrai que la direction nîmoise pose un peu problème à ses supporters.
Bah oui, ouais, oui. Ils ont pas. C'est un choix. Après, voilà,
le nouveau directeur aussi.
Le fait est que le déplacement au match aller des supporters nîmois, des gladiators, je sais plus quoi. Excusez-moi aux membres du groupe. Je sais que c'est gladiators dedans, mais j'ai plus le nom entier. Se sont déplacés malgré, semble-t-il, une interdiction de déplacement. C'est pourquoi les CRS les ont parqués sur une aire d'autoroute. Les choses se sont envenimées, il y a eu des lacrymogènes et voilà, on ne sait ces cas-là rarement de qui ou de l'autre a commencé, mais voilà, il y a eu des heurts, des incidents et malheureusement des blessés du côté des supporters.
Mais Simon, ils le doivent qu'eux-mêmes, les supporters, s'il y en a interdiction de déplacement, aucun...
J'ai relaté des faits.
Je me permets parce que la direction de Nîmes ne peut rien faire. S'il y a un arrêté préfectoral interdiction de se déplacer, c'est le préfet, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État et aucune direction de club, que ça soit Marseille, Lyon, etc., ne peut faire quelque chose. Donc, à un moment donné, les supporters, faut qu'ils arrêtent de se regarder le nombril.
Ouais, mais ils sont importants aussi quand même.
Non, mais c'est pas de la faute de la direction, Bilal, ce que je veux dire, c'est que la direction de Nîmes n'y est pour rien s'il y a un arrêté préfectoral. Moi, je suis contre. Je ne comprends pas qu'un pays comme la France, qui est quasiment 5e ou 6e puissance mondiale, n'est pas capable d'assurer la sécurité de 1000, 2000, 3000, 4000 supporters. C'est n'importe quoi par rapport à ça, et je rejoins les supporters. Mais après, quand il y a une interdiction, la direction d'un club ne peut strictement rien faire. On sait très bien que les supporters sont importants. Ils doivent pouvoir se déplacer. On n'est pas dans un pays qui vient de naître il y a 3 ans. C'est incroyable quand même. Ouais. C'est ça qui est grave. Et tous ces arrêtés préfectoraux, c'est une,
ça met un peu en difficulté,
c'est une
aussi.
Honte. Ouais. Moi, je dis pour toi. France, c'est une honte. Ça veut dire qu'en France, on n'est pas capable de gérer un pays comme ça, de gérer le déplacement de 1000, 3000, 5000, 10 000 personnes. C'est une honte.
Avant, on arrivait. Vraiment.
De toute façon, avec les ultras, c'est très important démocratiquement. On l'a énormément vu en Afrique du Nord cette dernière décennie. La révolution de Jasmin, les ultras tunisiens ont été prépondérants dans l'évolution dans l'éclosion de la révolution de Jasmin. On se rappelle évidemment de la puissance des Égyptiens, des ultras égyptiens sur la place Tahrir. Les Marocains aussi actuellement ont fait très récemment un champ contestataire en Algérie, bien sûr.
Tous les champs qui ont été repris lors des manifestations en Algérie, c'était des chants de supporters des clubs, donc des ultras. Donc voilà,
t'as raison. C'est très important. Donc la liberté des ultras, la fameuse liberté pour les ultras, elle est très importante en France. Leur liberté de déplacement et leur liberté d'expression. Ouais. C'est extrêmement important pour le bien démocratique national. Après, en effet, je suis d'accord avec Kamel. J'ai envie de leur dire, moi, je considère votre rôle important en France, dans les stades, pour la société. Mais mettez-y du vôtre. Mettez-y du vôtre, voilà, il y a trop de...
Mais pourtant, ils essayent, c'est bon.
On ne l'attend pas, faut peut-être aussi que eux arrivent à canaliser certains membres de leur groupe. Je sais que c'est très compliqué.
Avant, il y en avait moins, peut-être.
Oui, je sais pas, mais le fait est que...
Je sais pas si on avait moins avant.
Ouais, mais moi, je crois que ça cognait plus avant même.
Ça cognait plus avant.
Aujourd'hui, en même temps.
Mais après, comme le dit Simon, malheureusement, moi, je suis le premier à être... pour les supporters, pour les vrais fanas, moi le football avec les fumigènes, ça fait partie.
Attention, c'est une partie du football, mais ça ne représente pas tous les supporters.
Mais c'est vrai que malheureusement, ils se mettent une balle dans le pied aussi quand ils ont des comportements.
C'est ça, c'est moi le disais.
Mais ça te voilà. Là, tu leur donnes du pain béni à ces personnes qui n'ont strictement rien compris aussi.
Et puis l'État est dans une solution de facilité maintenant. C'est incroyable.
La répression,
ils veulent pas. Excusez-moi l'expression, ils veulent pas se prendre la tête à gérer des déplacements de supporters parce que pour eux, c'est secondaire. Et non, je veux dire, demain, et je le redis, demain, s'il y a plus les ultras, s'il y a plus les supporters, le football est mort. C'est clair, net et simple.
Mais malheureusement, pour ceux qui connaissent le football de très très loin, ça reste l'image quand même il donne quand même une image au football assez déplorable.
Mais c'est quoi l'image au football?
Le football ne sera pas mort, malheureusement, il sera différent. Tu peux le regarder en première ligue, tu peux le regarder au Parc des Princes.
Les gens qui suivent pas le football,
excusez-moi,
il y a des débordements, il y a toujours des si. Alors que tu prends
un football.
Attendez, moi, excusez-moi, je vais pas faire le vieux rabat-joie, etc. Je suis allé voir des centaines de matchs dans des stades. Excusez-moi, il y a des stades, je vais en parler un, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Arsenal.
Les Gunners.
Quand vous allez voir un match d'Arsenal.
Ouais, l'ancienne à Ebori, c'est très chaud.
Emirates, je suis allé voir 2-3 fois. Excusez-moi, mettez-vous des allumettes sur les yeux, d'accord? C'est à dormir debout. Il n'y a rien. C'est pas du football pour moi. Excusez-moi l'expression.
C'est du football, malheureusement. Non, c'est un autre football.
Bon, ça allait plus vite à Ebori.
Il
n'y
a aucune ambiance. Il n'y a aucune ambiance. Je me suis fait, suer. Tu t'endors. C'est un truc de fou. Par contre, vous allez dans des vrais stades où il y a des ultras, il y a quelques fumigènes, on va dire. Mais c'est la... Moi, je suis allé voir un Tottenham Chelsea au stade
l'ancien White Hart Lane.
Mais vous savez quoi? C'est le 7e ciel. Voilà, c'est du vrai football.
Il y a un très bon modèle à suivre, c'est en Allemagne. Les Allemands, quand même, faut le reconnaître.
On le dit toujours, c'est bon. 15 000 personnes
des ambiances de dingue,
en
des
D2, en D3, des déplacements.
Ils utilisent les fumigènes.
Les déplacements de 15 000 personnes, Simon. Tu sais quoi, 15 000 personnes en D3, faut le faire quand même. Ah non, 15 000 personnes, c'est un stade en France.
Regardez le stade de l'Union Berlin, toujours pas.
Allez, sonne. justement, l'Olympique de Marseille, on est, ouais, Simon nous fait voyager comme à chaque fois avec Abel.
Hein,
justement, de Nîmes, on revient à Nîmes, hein, on revient à Nîmes, hein, on a oublié Villas-Boas et Blacar. Justement, cet OM va-t-il se relancer à Nîmes?
L'OM doit se relancer à Nîmes après sa défaite la semaine dernière. Si une victoire éventuelle contre Nîmes lui permettrait potentiellement d'assurer la deuxième place, et qui dit deuxième place dit place qualificative pour la Ligue des Champions. C'est ce que l'OM vise, revenir en Ligue des Champions après plusieurs années sans avoir connaître l'Europe. Donc une place en tout cas les conforterait.
La Champions League.
Exactement.
Non mais moi je pense que, et t'as raison Alisson, mais ce qui est vital c'est qu'il faut qu'ils gagnent, pas par rapport à la Champions League, bon aussi par rapport à la Champions League, mais c'est vital dans le sens, il faut qu'ils arrêtent. Ils ont eu une défaite. Il y a eu la déclaration de Villas-Boas avant cette défaite contre Nantes, en disant qu'ils étaient quasiment qualifiés pour la Ligue des Champions, qu'ils finiraient quasiment deuxième. Et là, s'ils perdent, ça fait 6 points de perdu. Donc, il y a un moment donné, ça va émettre le doute, aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau de la direction du club. Donc, c'est vrai que c'est une victoire qui est hyper, hyper importante psychologiquement pour moi, parce que cette deuxième place, si vous perdez 6 points sur 11, ça va très, très vite. Ça, il reste mal. Beaucoup, beaucoup de matchs.
Ça s'appelle remettre le pied à l'étrier.
Remettre le pied à l'étrier de tout le monde et se mettre la pression à soi-même. Ouais. Parce que quand vous avez 12, 13 points, ça va. Mais là, moi, pour ceux qui ont joué au foot, quand vous commencez à perdre des points comme ça et vous sentez le souffle du deuxième et du troisième et du quatrième, la saison, elle est très très longue. Et chaque match, vous ne les jouez pas à la même manière. Donc c'est une victoire impérative, vitale pour l'OM ce soir.
Ouais. C'est obligé, quoi. Selon Kamel, selon ses mots.
Il y a quoi, ouais. 30-33 points à prendre. Mmh. C'est ça, hein. C'est ça. Ah oui, bah, 30-33 points.
Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. C'est 10 matchs.
Rien n'est fait, faut jouer. Faut jouer, on n'est pas au mois d'avril où il reste 3-4 journées, tout simplement.
Tu peux gérer, d'assurer un petit match.
C'est vrai qu'après cette victoire à Lille, même les journalistes, oui, l'OM, quasiment Ligue des Champions, mais il te reste, Nantes est arrivé, vous allez revenir à votre place tranquillement. T'as Nîmes, ça va être compliqué. T'as Nice qui va être encore à jouer. T'as le Paris Saint-Germain, c'est quasi une défaite assurée. T'as Monaco qui va arriver aussi. Va falloir se déplacer à Lyon. Mais bien sûr que c'est la Ligue 1, c'est compliqué. Faut qu'il reste concentré jusqu'au bout. On sait que la marge de manœuvre est extrêmement limitée. On le voit aujourd'hui en termes de jeu. Il est obligé de faire jouer des joueurs qui sont à bout de souffle. Et puis on espère le retour de Thauvin. Ça fait 6 mois qu'il a pas joué. Faut pas s'étonner.
Non, mais
va falloir être patient aussi.
Entre nous, il est strictement interdit de perdre contre Nantes à domicile quand tu joues la Ligue des Champions. Sincèrement, la place, la deuxième place, c'est honteux. À la limite que tu gagnes contre
ce Nantes là.
Oui, ce Nantes-là, oui.
Non,
oui,
je suis pas d'accord avec toi.
L'entame de match, elle est catastrophique de Marseille.
D'une équipe,
bien sûr, qui prise la deuxième place.
Mais Nantes fait son meilleur match de la saison. Oui. Mais l'entame de match, elle est
indigne. À la limite,
mais Nantes, cette année, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui fonctionne bien.
Oui, c'est resté sur 6 matchs quand même.
Si tu conjugues le fait que. Il y a des mauvaises séries, tout le monde en a un petit joueur. Marseille en a eu aussi.
Des éléments quand même.
Si tu conjugues Nantes qui travaille relativement bien malgré une mauvaise série juste avant ce match-là.
C'est pas Marseille d'arrêter la mauvaise série de
et Marseille, j'ai pas fini.
C'est tout.
J'ai pas fini.
Ouais,
et, Marseille, qui restait sur une longue série, mais comme d'ailleurs André Villas-Boas le disait, une longue série, c'est usant. Avec un effectif
mais
aussi réduit.
Et ta série, tu la perds à Nîmes, à la limite, c'est moins catastrophique que de la perdre chez toi contre Nantes.
Bah,
à
Lille, écoute, c'est comme ça.
5000 personnes, après avoir gagné à Lille, ça fait un peu désordre.
Merci.
Tu gagnes à Lille, chez toi contre Nantes, ça sert à rien.
Voilà, c'est des supporters.
Le coach étoilé, sans oublier Alisson. Concernant l'Olympique de Marseille, rapide.
D'un point de vue psychologique, tu vas gagner chez un concurrent direct.
Bah ouais.
T'es d'accord avec moi ou pas?
Tu perds pas chez toi à domicile.
Derrière, en taquinant contre Lens, ou l'autre équipe,
tu dois pas percer le coach étoilé. Vous restez avec nous.
Même un Nantes qui travaille très bien.
Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Rapidement avec le cas de Neymar et le FC Barcelone.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause, toujours en compagnie d'Alisson Nkunku, de Coach Tolé, de Simon Balachev et sans oublier le présidente Kamel Aïd Kaira avec nous pour m'accompagner durant cette émission. On s'attarde cette fois-ci après le football français et sa Ligue 1 Conforama sur le football espagnol. On y va.
Time Sport.
Eh oui, c'est un Français qui rejoint plutôt la Liga, peut-être la saison prochaine, mais non, là, il demanderait, réclamerait 6,5 millions d'euros au Barcelone. Il réclamait justement cette somme au FC Barcelone, en plus des 32,1 millions d'euros qu'il souhaite déjà récupérer du club catalan. Selon une information publiée par le quotidien El Mundo, cette troisième action judiciaire portée par le joueur du Paris Saint-Germain serait en lien avec le contentieux qui a opposé le Barça et le fisc espagnol lors de la signature du Brésilien, on le rappelle, en 2013. Donc, en résumé, Neymar serait en train peut-être de préparer son retour au FC Barcelone, Simon, en parallèle de ses procédures engagées à l'issue à l'encontre du club. Et il paraît qu'il était prêt à mettre de l'argent pour y retourner, Claudio Tollet, alors qu'il leur en demande. Aïe, 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 que dire ? Neymar, on ne le comprend plus. On espère, on le rappelle, on est toujours derrière nos clubs français en Ligue des Champions. On m'en ligue pas, mais bon, on essaye.
Déjà, c'est pas facile à analyser comme affaire parce qu'on en est au stade des conflits d'affaires. Voilà, faut être avocat d'affaires, je crois, pour vraiment la comprendre cette chose-là. Et c'est assez symptomatique d'une chose, c'est d'un football professionnel, business évidemment, maintenant on le sait, où un joueur peut aller contre, intenter un procès, voilà, ou aller en justice contre l'un des plus gros mastodontes du football mondial, sans que ça paraisse David contre Goliath. Honnêtement, même à l'époque des Zizou, Ronaldo, et puis bon, les années 80, j'en parle pas, aussi bons ces joueurs étaient, je doute qu'ils avaient une puissance médiatique et financière autour d'eux pour se dire, de manière tout à fait naturelle, je vais aller réclamer de l'argent à Barcelone. Aujourd'hui, Neymar, et son père le dit très tôt d'ailleurs à propos de son fils, quand mon fils est à la maison, c'est mon fils, quand mon fils est sur le terrain, c'est mon entreprise. Neymar est une entreprise. Et aujourd'hui, on a des footballeurs entreprises. Et cette affaire est bien symptomatique de ça. On voit vraiment une entreprise, Neymar, aller contre une entreprise, Barcelone. Et c'est, je sais pas si c'est un football souhaitable, mais voilà. C'est en tout cas un beau révélateur.
Alors Simon, moi, faut pas tout mettre ça sur le prisme du football. Ça, faut arrêter.
Alors pourquoi ? Allez, dis-nous tout.
C'est juste une stratégie.
Je l'aime pas. Il a des avocats.
C'est une stratégie.
Pas Neymar, mais le foot business.
Oui, mais on peut en débattre. On fera une émission si tu veux spéciale foot business et on en parlera. Mais à un moment donné, faut arrêter d'être dupe. C'est une stratégie de ces avocats. C'est 36 millions plus 6, ça fait 42, excusez-moi. C'est un truc de fou. 42, tu vois, Simon, quand tu parles.
Elle a perturbé, quand même, là-haut.
Parce que on vit dans ce monde-là. Donc, faut arrêter, à moins d'aller vivre sur Mars. Donc, ça fait 42. Et donc, là, il est en train de préparer son transfert, en essayant de récupérer de l'argent petit à petit sur Barcelone. Et pour diminuer le tarif du transfert. C'est un jeu de dupe. Donc, à la limite, il fait ça et tout. Je veux dire que en droit, tu peux faire ce que tu veux en droit.
Est-ce que j'ai dit le contraire?
Pourquoi tu ramènes ça à toi? Je parle aux auditeurs. Est-ce que je t'ai regardé quand
avec toi? Si tu m'as dit, je suis pas d'accord.
La première partie de mon discours,
il était pas d'accord avec
toi. Et là, truc, donc, ne ramène pas tout à toi. Je t'ai pas regardé. Donc,
le jour, cherchais le moment où tu connais le moment où il dit où je voyais qu'on avait fait.
Simon, alors justement, s'il te plaît, on n'est pas dans une émission de télé-réalité.
Je veux dire. On est dans un talk show là, quand même.
Si je fais un propos et j'ai envie de viser qui que ce soit, je le regarde dans les yeux et t'es à côté de moi, je pourrais regarder si c'était à ta direction, d'accord? Donc
Comme elle est chaud, c'est les auditeurs, ils ont pas. Mais tu me fais peur aux auditeurs et aux auditrices, comme elle.
J'irai à la DRH chercher ma mallette de l'équipe.
Mais non.
Donc il y a un moment donné, je pense que Neymar, il est en train de mettre des écrans de fumée avec ses conseils, ses avocats, parce qu'il a envie de quitter. Barcelone, c'est aussi simple que ça. Après, demain, il va réclamer 3 millions. Je veux dire, il y a un moment donné, il veut partir. Donc, soyons logiques. Quand on veut intégrer une société, on ne l'attaque pas en justice si on veut vraiment l'intégrer. Donc, c'est qu'il y a une stratégie avec ses avocats parce qu'il veut faire diminuer le transfert. C'est tout. Après, je pense que c'est ça. Après, peut-être que je me trompe.
Sa réaction, ton ressenti, Simon.
Cette petite histoire-là, ça n'empêchera absolument pas Neymar de négocier avec eux dans quelques mois pour un éventuel retour. Ouais. C'est total business is business.
Il y en a beaucoup aujourd'hui. Comme le disait Yacine Bouali Alisson, concernant Neymar.
C'est ça, ils ont assez bien résumé la situation. Si on le prend premier degré,
peut-être qu'on peut y voir quelque chose d'assez bizarre. Ça serait Neymar qui attaque le FC Barcelone et Neymar qui sachant qu'il veut rejoindre le FC Barcelone. Donc dans un premier temps, si on est premier degré, on se dit mais pourquoi faire ça? C'est absolument pas logique. Mais si on y regarde de plus près, comme ils ont très bien résumé, c'est exactement ça. C'est que les indemnités qu'il pourrait percevoir de Barcelone, éventuellement, ça sera une somme qui pourra déduire du montant de son transfert. Donc si on le regarde d'un point de vue, de ce point de vue-là, forcément, la stratégie est très intelligente de la part de Neymar et ses proches.
Il est toujours malin, Neymar, peut-être. T'en penses quoi? C'est vrai.
Tout a été assez bien résumé. Je pense que c'est une manière aussi cachée de préparer son retour au FC Barcelone. Sous forme de transfert, j'en suis pas sûr, mais on parlerait éventuellement d'un prêt de 2 ans.
Et j'ai un scoop, hein.
Ça, c'est.
J'ai un scoop.
Prêt de 2 ans.
Incroyable.
Prêt de 2 ans.
Pour Neymar.
Prêté Neymar, c'est génial. Les...
Bah, Cocholi, j'ai un scoop, hein. Après l'arrivée de Brest-Ouest, Messi l'a dit qu'il mettrait de l'argent pour le retour de Neymar.
Mais il peut, hein.
Il est capable. Il en a marre de jouer avec des Brest-Ouest. Bah oui, c'est le pauvre. Il demande Neymar, on lui ramène.
Il a fait une passe de 6 jours.
Exactement. Il a fait 2 passes D, hein.
Sur lequel on est d'accord, c'est que c'est vrai qu'on voit quand même, vu la situation de Neymar, on le voit quand même mal rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on l'a jamais vraiment entendu dire je suis heureux au PSG, je veux durer.
Ah si, c'est pas vrai.
Très simple.
Il a dit ça.
Ah si, il l'a dit.
Ah ouais, alors il l'a dit. Alors vous, en fait, vous croyez à la communication qui a été mise en place.
Dis pas qu'il l'a dit.
Non, il l'a dit.
Il a dit parce qu'il fallait que les supporters fassent amen à Neymar. On sait très bien.
Et Simon, on l'écoute. Simon, vas-y.
On sait très bien qu'il est arrivé quasiment par force au Paris Saint-Germain.
Oui, mais ne dis pas
d'accord
qu'il l'a fait.
D'accord. Ah, mais après, dans ce cas-là, on croit tout, mais on sait très bien que
qu'il fallait
tout
le croire.
Ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, c'est de retourner au FC Barcelone.
Il n'a jamais venu, vous voulez au PSG déjà.
Aïe. C'était un petit peu chaud. Eh oui, c'est le cas de Neymar. Eh oui, des petites dédicaces à notre consultant Loïc Caudran, Calme Kamel, Simon et aussi le coach Tolé. Et aussi à Neymar, Sabrina et sans oublier la famille Tinounou. C'est une dédicace que je fais, c'est les auditrices et les auditeurs. Ils me disent, voilà, il faut calmer Kamel et coach Tolé et Simon. Mais on va s'attarder, Kamel, sur les Gunners d'Arsenal.
Time Sport, la victoire.
Alisson avec le coach Tolé, Arsenal éliminé par Olympiakos, opéré après une folle prolongation, il faut le rappeler, jusqu'à la 119e minute, alors qu'ils avaient remporté le match aller 1-0 à l'extérieur. Arsenal a été éliminé par les Grecs de Mathieu Valbuena, on le rappelle, après une fin de prolongation de pure folie pour les aficionados du football. Arsenal, l'Ajax, les trois gros clubs portugais, Porto, Benfica, Sporting, sortis dès les 16e de finale, pas si simple. La Ligue Europa sur cette version 2019-2020.
Elle est tellement pas si simple qu'on n'existe même pas en France.
Ouais.
Quand
tu regardes, on n'est plus là.
Quand tu regardes les clubs là, qui sont actuellement en 8e de finale, je me suis amusé à regarder les rencontres. Tu as des clubs écossais, tu as des clubs danois. Voilà.
Et ça, c'est. Parce qu'il faut les respecter. Quoi.
C'est, même ça, c'est révélateur du football européen. Nous, on est complètement à la ramasse complet et heureusement qu'il y a le Paris Saint-Germain sur la scène.
Et Lyon.
Maintenant, après.
Et Lyon.
Merci Paris, oui.
Sur la durée, mais oui. Et Lyon aussi. Et d'ailleurs, c'est Lyon
qui. On parle pas des one-shots.
C'est clairement Lyon qui a créé la sensation du football français des matchs allés. Pour en revenir à Arsenal, de toute façon, ça fait depuis un moment que c'est compliqué, que ça dure, que même en présence d'Arsène Wenger, ils étaient restés quasiment 10 ans sans titre aussi. Bah voilà, c'est compliqué pour Arsenal.
Arteta n'arrive pas.
Arteta n'arrive pas, mais j'ai le sentiment que ce soit Arteta ou un autre, ça sera compliqué.
Ouais.
C'est une institution qui est, je sais pas, je connais pas assez bien le club actuellement, mais c'est vrai que ça paraît. Délicat. Quel est le projet réel d'Arsenal aujourd'hui?
Par rapport à Arsenal, si je me permets.
Allez, vas-y.
Je vais rejoindre Simon. Pour dire, je vais me calmer, mais. Mais après, on verra parce que. Bon, bref. Je vais rejoindre Simon. Arsenal, et même Arsène Wenger, si on s'en souvient, le disait. Son objectif, c'était de gagner des titres avec la super équipe qu'il avait, mais petit à petit, avec la construction du stade, etc., l'objectif qui lui était demandé, c'était de faire gagner de l'argent aux actionnaires.
Il
en a fait, hein.
Mais tu as raison. Et ces actionnaires américains
américain.
Arsenal, hein, c'est américain, ça, Simon, ouais.
Bah, et exact, il a fait comme tous les, presque voilà, comme tous les clubs de première ouais ligue, hein, Liverpool.
Et il a fait,
ouais, on les perd, on les perd, on dirait.
Il a fait gagner des milliards. Et tant qu'il faisait gagner de l'argent, même si les résultats n'étaient pas bons, les actionnaires, ça les dérangeait pas. Parce que l'argent rentrait dans leur poche. Et il a fait gagner, vous vous rappelez, avec les contrats, qui, les joueurs qu'ils ont vendus, plus le stade qui rapporte, qui a une manne financière exceptionnelle. Et ça, tout ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est Arsène Wenger qui l'a construit avec la direction. Donc, il n'avait pas obligation de résultats sportifs. Et donc après, Arsenal est resté dans cette politique. Bon, bon. Et tant que, moi j'y suis allé à Arsenal plusieurs fois, c'est une machine à cash. C'est une machine à cash. Ouais. Quand vous voyez le stade, 10 minutes avant le match, il est vide, ils sont tous dans la boutique. Et avant, 2 minutes avant le coup de sifflet, c'est rempli. Donc, c'est une machine à cash. Ils gagnent des milliards. Donc, tant qu'ils gagnent de l'argent, et ils se maintiennent en première ligue, les actionnaires, ils mettent pas la
pression. Je suis pas sûr que les supporters soient du même avis. En tout
les cas, supporters, ils dorment. Il n'y a pas de supporters. C'est des VIP. Il n'y a pas de supporters. En fait, ils viennent du monde entier. Ils viennent par agence de voyage.
Il
y a plus de supporters. C'est compliqué. C'est que les vrais supporters, les gunners, ceux, a priori, seront toujours là.
Les abonnements, ils sont à des milliers d'euros.
Une machine à cash, il faut être comme Barcelone, le Real, Manchester United. Il faut être sur le premier plan, qualifié pour des coupes européennes, exister en 8e, quart de finale de Champions League. Sauf que à une heure où le football, dans un football plutôt où les riches vont en étant de plus en plus riches, et ceux qui ne prennent pas le wagon vont aller en étant de plus en plus pauvres, j'ai bien peur qu'Arsenal soit en train de lâcher le train. Parce que à force de ne plus se qualifier pour les grandes compétitions, c'est de l'argent en moins, des gros joueurs
intéressants.
Et surtout de l'exposition en moins. Et en effet, c'est là où l'Emirates, c'est en effet une espèce de Disneyland, une machine à cash. Mais si on n'a plus cette exposition-là, le Disneyland, il va se vider.
Vous savez, et Simon, je te rejoins parce que vous avez parlé du football allemand. Vous savez pourquoi Dortmund a été en difficulté? Le mur.
Non, pourquoi?
Le mur. C'est combien de supporters, le mur? Je crois que c'est, si je dis pas, 20 000.
On fait pas mal.
Vous savez, il a combien l'abonnement au mur? 200 euros par mois. Voilà. Et ils n'ont jamais augmenté Dortmund le prix de l'abonnement. À l'Emirates, pour voir un opéra classique, parce que c'est aussi calme que quand vous allez voir un opéra, ça va être 5 000, 6 000 euros l'abonnement. Et bien à Dortmund, il a 200 euros l'abonnement pour voir tous les matchs.
Voilà. C'est incroyable.
Et c'est ça la différence. Et tant que c'est une machine à cash, ils en ont strictement rien à faire de finir 8e, 9e, 10e, tant qu'ils restent en Ligue 1. Et c'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Non, et à un moment donné, ils vont s'enliser. Et ils vont couler, c'est logique.
Là, ils sont en train de. Avant, c'était un gros d'Europe, Arsenal.
C'est ça, c'est que. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'Arsenal, on est nostalgique. C'est-à-dire qu'on parle du Arsenal d'avant, les Invincibles, etc. Ces dernières années, on ne parle plus d'Arsenal comme un gros club déjà de première ligue et ensuite un gros d'Europe. C'est en Ligue des Champions, ils ne sont quasiment plus là. Mmh. Ou alors, quand ils sont là, ils se font sortir et avec la manière en plus de ça.
Oui. Ouais, on ne voit plus. Simon et Kamel le disaient.
Par l'Olympiakos.
Exactement.
Ouais, ça me surprend pas.
Et avec la manière, et ce que tu disais, Simon, c'est exactement ça. C'est que Arsenal va devenir un club de seconde zone. Mmh. Alors que ce soit Disneyland, que ce soit une machine à cash.
Mais c'est ça le but, c'est ça.
Il y aura ce décalage-là. Même si l'argent est là, quand t'as
on a l'impression de perdre ses clubs quand même, Alisson.
Ça reste du football. C'était
là. Je reviens un peu à cette idéologie que Kamel disait. Je ne sais pas si Simon le pensait, mais Yacine aussi, Achille. Que voilà, je vais pas dire que le directoire pro-américain fait mauvais effet à certains clubs, notamment nos clubs français et même nos clubs anglais, de ne voir que le profit mais et ne plus cette culture football. Non mais c'est vrai.
Mais les Américains,
c'est un peu chaud quoi. Le Costolé, tu le pensais aussi.
Bien sûr.
Mais les Américains dirigent les clubs de football comme des multinationales.
Et je crois qu'on n'est pas prêt encore à.
Exactement. On ne peut pas diriger un club de football comme une multinationale.
C'est d'accord, Alisson.
C'est vrai que quand tu es vraiment passionné de football et que tu connais un petit peu ce sport, bah franchement, tu sais plus où tu vas. C'est-à-dire que l'Arsenal aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de donner le 11 type d'Arsenal?
Non.
Honnêtement, il faut être honnête, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis pas capable. Non. Et c'est vrai que. Enfin, moi, je vois Arsenal aujourd'hui. Enfin, ça ne fait pas peur du tout.
Ouais.
Honnêtement.
Je regardais pas.
Bordeaux, Marseille ou Lyon pourraient les affronter.
Donc non mais
j'ai selon toi non Arsenal
c'est trop triste.
Et c'est pareil, c'est exactement le même parallèle, c'est Bordeaux qui a été repris par des Américains, c'est exactement, c'est la belle endormie, c'est ça, c'est que Bordeaux les actionnaires américains ils vont venir.
Moi j'exagère, il y a eu des podiums avec les Américains. Mais là
les actionnaires américains à Bordeaux, pourquoi ils savent qu'il y a possibilité de faire de l'argent, ils sont venus à Bordeaux, les Américains, les actionnaires. Pour ça qu'on dit les Qataris, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, vous c'est insupportable ça qui vous dit, vous montez au CF de ces trois pistes de terre, le jour où il y a plus les Qataris à Paris, c'est terminé, il y a plus de football. Dites-leur merci d'avoir des Cavani,
peut-être débourser aussi tant de millions.
Les Américains, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour faire du business.
Merci Kamel.
Ils construiront un parking,
On va revenir après le football business en Angleterre pour parler de Ligue 1 Conforama avec ce magnifique match dimanche soir. Eh ben on espère l'apercevoir, Simon Balachev, dans les travées du Parc OL, entre les Lyonnais qui rencontreront les Stéphanois, le vrai derby.
Time Sport revient dans un instant. Beur FM, 19h-20h, Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Eh oui, de retour sur l'antenne de Beur FM pour cette dernière partie de l'émission Time Sport en cette fête de semaine. Eh oui, 19h-20h, c'est le chrono horaire sur l'antenne de Beur. On n'oublie pas l'équipe pour m'accompagner ce soir, Simon Blachef, le coach Tolé, Alison Nkunku, El Presidente, Kamel Aïd Keira. Et aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la radio, les infos et les replays des émissions sur le site beurrefm.net. On va s'attarder cette fois-ci sur ce match qui aura lieu ce dimanche soir du côté du Parc OL.
Time Sport.
Et oui, le coup d'envoi de ce derby qui se déroulera au Groupama Stadium à Lyon sera donné ce dimanche 1er mars, et oui, déjà en mars, à 21h, avant la rencontre. Les Lyonnais, Kamel, sont classés à la 7e place de cette Ligue 1 Conforama et Saint-Etienne à la 15e. Que reste-t-il quand même de ce derby? Il est toujours assez chaud, bouillant, dans les travées, mais même sur le terrain, plus qu'un Olympique de Marseille, PSG, 22 mars prochain.
Un derby comme ça, le classement des équipes, ça n'en prend pas en compte. Enfin, si, ça entre en compte un petit peu pour. Mais de toute façon, ce sera chaud bouillon. Qu'est-ce que tu veux, mon Bilal? L'OL est sur une belle lancée, est en train de relever la table, une bonne dynamique, vient de battre les Turinois chez eux, et là, c'est la SSE de leur côté, ils ont une cascade de blessés, ils sont sur une crise.
Pourtant, le budget était là.
Ils vivent une crise sur le terrain. Et dans le vestiaire, en interne, c'est très compliqué. C'est à double tranchant. Parfois, c'est dans ces moments-là que, quand t'es au plus bas, qu'il va y avoir une réaction d'orgueil dans un derby et que tu vas te relever. Ou tu revis le 5-0 de 2017, fin 2017, avec Oscar Garcia, et c'est la catastrophe. Ce sera tout l'un ou tout l'autre. Je pense honnêtement que là, ce match-là, ce derby-là, ce sera tout l'un ou tout l'autre. Soit il y aura une réaction d'orgueil stéphanoise, soit ils vont se faire rouler dessus.
Alors, je vais justement, Kamel, vas-y. On aura Alisson, le coach.
Un derby, vous retirez tout de suite les classements. Un vrai derby. Il n'y a pas de classement en derby. Maintenant, Lyon, waouh, c'est one shot. Ils ont gagné un match contre la Juve. Maintenant, ils vont être champions de France et ils vont être champions de.
Je pense qu'il y a une bonne série parce qu'ils ont gagné des matchs avant.
Oui, non, mais je veux dire, c'est pareil. C'est moi, excuse-moi, je ne ramène pas ça à toi. Je ramène ce que j'ai entendu après la victoire contre la Juventus de Lyon. Waouh, à les entendre, on ne va pas regarder le derby. Ils vont gagner 10-0. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en coulisses à Saint-Etienne.
Oui, plus ça, exactement. C'est plus Saint-Etienne qui fait peur que Lyon qui est effrayant, c'est ça.
Saint-Etienne, avec leur direction bicéphale, on sait très bien que jamais aucun club au monde n'a fonctionné avec deux présidents. Et là, depuis qu'il y a deux présidents, c'est le boxon à Saint-Etienne. Donc là, avec l'histoire Ruffier, etc., avec Puel qui n'est pas un adepte, qui n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, plus c'était un ancien Lyonnais, on sait très bien qu'il a eu lui aussi un mail à partir avec la direction lyonnaise, il a été en procès avec eux. Donc voilà, c'est comment va réagir Saint-Etienne. Et tu l'as dit, soit ils réagissent parce qu'ils ont le groupe a envie de soutenir Claude Puel, c'est simple, moi pour moi, après je ne fais pas la boule de cristal, soit l'équipe réagit et fait un résultat. Ou du moins, au moins dans la manière pour soutenir Claude Puel, soit ils se prennent 5-6-7-0, et là c'est.
Ah, moi
là, c'est
j'ai bon. Peur, j'ai vraiment c'est peur bon. De l'énorme gifle là, parce que.
C'est ce que je me dis aussi, moi. C'est que je me dis que ce qui peut éventuellement arriver, c'est que Saint-Etienne explose. Ouais.
C'est tout l'un ou tout l'autre. Ils peuvent aussi avoir la réaction d'orgueil. Mais s'ils explosent, ils explosent.
Je crains que vraiment ce soit l'explosion. Après, effectivement, on a le cas contraire. Derby, gros derby, réaction d'orgueil, réaction d'homme orgueilleux. Et là, ils nous font un bon match. Un excellent match, ça serait beaucoup dire. Un bon match et ça accroche le nul. Mais j'ai plus peur d'une explosion de Saint-Etienne.
Je crois pas, moi, une performance comme l'a fait Lyon face à Juventus de Turin. C'est vrai que tu as cette confiance avec cette victoire qui est quand même très importante face à la Juve. Mais tu as une telle débauche d'énergie, débauche mentale aussi, psychologique,
Le Stéphanois,
c'est
fois.
Le derby après, hein, c'est voilà. pas un match ouais, de Ligue 1, c'est le derby.
Ça reste encore fragile du côté
C'est le derby avec des Aouar, Lopez, Touzard. Ouais. Qui ça sont peut... formés au club. Ça et en face, il y a Saliba, il y a Nordin, etc. C'est aussi ça qui est important avec le Saint-Éoël, c'est que c'est encore un derby avec des joueurs qui sont formés par ces clubs-là et qui sont depuis les petites catégories éduqués à ce derby-là.
Que tu peux très bien, oui, alors comme vous dites, avoir Saint-É explosé, mais je ne pense pas qu'ils exploseront. Par contre, moi, je pense que ça peut être un match. Justement, Saint-Étienne, qui a eu une semaine de préparation, même si c'est un petit peu compliqué, leur jouer un sale tour et pourquoi pas aller chercher un match.
Mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi.
C'est pas impossible. Parce que je crois pas, en tout cas, à ce que Lyon.
Il y a un facteur X close. Et je vais te dire, c'est lequel le facteur X.
Lyon qu'on ait vu en.
Ce que je voulais dire, c'est pas forcément. C'était pas que Lyon ou Saint-Etienne allait gagner. C'était soit ça passe, soit ça casse. Je suis bien incapable de dire, en effet, si Lyon ou Saint-Etienne va gagner. Je voulais juste dire que soit Lyon gagne par un gros score, soit Saint-Etienne l'emporte. Mais il y aura pas, je vois difficilement que Saint-Étienne perde 2-1, 2-0.
Et justement, ce qui peut
alors allez, on aura Kamel.
Tu parlais du match contre la Juve, Claude. Lyon, l'Olympique Lyonnais n'est pas redescendu encore de son nuage. Le match vient vraiment juste après. Donc ils sont encore dans cette euphorie d'avoir battu la Juve, alors qu'on les voyait perdre 3-0. Et juste, arrête. Les gens, tout le monde les voyait se faire exploser.
Sauf toi.
Ah
d'accord, ok, sauf toi.
C'est vrai. Quand il a dit. Quand même, il avait dit. Je te jure, il a parié.
Tout le monde, sauf Claude, voyait les Lyonnais se faire exploser.
Sauf Claude.
Ils peuvent rester justement sur cette lancée, c'est-à-dire gros match de Ligue des Champions, le derby qui suit, on reste sur notre lancée, on fait un gros match. Et Saint-Etienne, justement, c'est pour ça que je dis, s'ils explosent, je pense qu'ils vont se prendre un vrai score.
Alors, deux choses.
Alors, on t'écoute.
J'ai revu le match de Lyon, hein, je me suis fait mal. Attendez, ils ont gagné. Non, mais c'est incroyable. Deux pénaltys non sifflés, Dybala à la rue, Higuain à la rue.
Lyon a gagné quand même.
Ils ont pas
gagné. Mais à la rue, pourquoi? Parce que Lyon a fait un gros match.
Non, ils avaient des crampes à la 60e minute.
Si t'as des crampes à la 60e minute, c'est que t'as fait un gros match.
Si il y a 2-0 à la mi-temps, il y a pas de problème.
Aouar te sort un match de malade. Non, mais quand même.
Ah, vas-y alors. La réaction, quand même, on l'a pas eu en plus concernant ce match. Vas-y.
Je parle de Lyon.
Écoute.
Je parle pas de joueurs en particulier.
Ouais, Kamel.
Qu'il y a eu deux pénaltys sifflés.
Non.
Je fais une analyse du. Voilà, logique, de ma logique. Il y a eu un truc. Higuain à la rue. Dybala à la rue avec 10 occasions. Même ma petite soeur encore. Je veux pas manquer de respect à ma petite soeur. Elle les aurait mises au fond. Donc je veux dire, il y a un moment donné. Il faut garder raison. Faut raison garder. Après, moi, le facteur X de Saint-Etienne, c'est ça. C'est est-ce que le vestiaire veut soutenir
Claude Puel
ou va soutenir Ruffier. C'est juste ça qui va faire la différence. Moi, c'est ça où j'ai peur pour Claude Puel. Parce que quand même, Ruffier, c'est quand même un historique du club. Il a quand même un pouvoir. Et à la limite, être mauvais, c'est pas trop grave parce que vous pouvez sortir un bon match comme Lyon. Mais si le verre, il est dans le vestiaire, là, c'est compliqué. Et là, le verre, il est dans le vestiaire. Est-ce que le vestiaire va soutenir Puel ou va soutenir Ruffier? Et c'est là, et la décision va être là. C'est là. Et on le verra quand les joueurs vont jouer. Parce que là, ça va être compliqué pour Puel et Saint-Etienne. Vous allez voir. Et là, je pense que ça peut être un 5-6-7-0. Mais ça sera pas parce que
Alisson. C'est trop.
Ça n'a pas joué à grand chose.
Ah, pour toi aussi.
Je vous dis, ça n'a pas joué à grand chose.
Mm-hmm. Pourtant, c'est Lyon, ils ont battu la Juve. Ils vont quand même battre
le
Juve.
Comme chaque match a sa vérité.
Allez. De toute façon, comme le dit Kamel, le vestiaire stéphanois est tellement fragile qu'on le saura au bout des 10 premières minutes. Dans les 10 premières minutes, les premiers quarts d'heure, on connaîtra l'état d'esprit des joueurs stéphanois. Et s'ils n'ont pas pris de but d'ici là, en effet, on pourra se dire ah ouais, qu'ils sont venus pour jouer. Mais sinon, oui, ça peut très très vite partir en sucette à Gerland, à Décines.
Tu peux très bien mal commencer.
Mais bien sûr que tout est possible dans le football. Lilian Thuram l'a dit.
Un match est bien fini. Tu peux bien mal commencer un match et bien terminer. Tu peux très bien commencer.
Mais tu les as vus, les derniers matchs des Verts.
mais quand même, Simon,
franchement, c'est final, on voyait pas.
Non, mais voilà, franchement, sans déconner, c'est sur ça aussi qu'il faut se baser, quoi.
Alors, Claude, allez, t'appelles.
Juste en train de dire, on parle d'une équipe qui est malade, là.
Eh oui, Simon.
Bah oui, oui, je sais bien, mais bon, ils vont pas.
Je fais appel à toi, pas en tant que consultant, d'accord. Je fais appel à toi en tant que joueur. Tu sais très bien que tu as joué au football, on a joué au football, que quand le vestiaire il est pourri, tu peux monter au ciel, tu peux descendre 3 plus terre. Si les joueurs ils ont pas envie de jouer, ils perdent même contre une équipe de U9. Tu le sais très bien. Donc ça veut dire que tu as ce facteur qui est encore. Parce que tu as toujours les joueurs, tu perds un match, tu es mauvais, etc. Tu es pas bon. Comme Nîmes, ils ont été pas bons, mais le vestiaire il est soudé et bon. Attends, laisse-moi terminer. C'est le meilleur club de Ligue 1 sur les matchs retour. Donc ça veut dire que le problème pour moi, le problème de Lyon, et tu sais, de Saint-Etienne, tu le sais très bien, quand les joueurs n'ont pas envie. Ils ont pas envie. Et c'est ça, moi, qui me fait peur à Saint-Etienne. C'est que c'est de pourri de l'intérieur. Ouais, parce que être mauvais, perdre 2 matchs, 3 matchs, tu peux gagner sur un derby. Parce qu'un derby, comme on l'a dit, on l'a vécu, on a joué des derbys. Un derby, c'est un match à part. Tu peux être premier. Et dernier, avoir, le dernier peut te taper sur le derby. Ouais. Mais là, psychologiquement, et je rejoins Simon.
Alors,
moi,
termine.
Je demande à nos auditeurs de regarder la réaction des Stéphanois quand ils se prendront le premier but. Et c'est là, dans les 10 premières minutes après le premier but, on verra s'il y a un sursaut d'orgueil ou s'ils vont se dire on veut la tête de PL.
Le coach étonné, on termine. C'était tradition aussi.
Toi, comme tu dis, on a joué au football, sauf que nous, quoi qu'il arrive, on avait envie de jouer. Ouais. C'était le football d'avant.
Allez,
et là, la différence.
Non, allez, ça délimite le football d'avant.
Ouais.
Ça reste des footballeurs aussi, hein, et eux aussi ils ont des réactions d'orgueil.
Aussi,
bien sûr qu'elles ont changé.
Quand t'as pas l'osmose dans le vestiaire, tu l'as pas sur le terrain.
Ça, oui,
c'est un peu ça.
Mais bien sûr,
c'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. Mais tu peux mal commencer un match et mieux le terminer.
Au-delà de ça, tu vas pas me dire qu'à Saint-Etienne il y a une osmose au sein du vestiaire.
Bien sûr, c'est compliqué.
Il y a pas besoin d'être un super devin pour le savoir. Et c'est là où c'est dangereux pour le, club.
Ça
c'est
peut,
extrêmement dangereux. Et en
ça
plus,
peut, mais c'est un derby, donc c'est là, le match, justement. Voilà.
Et s'ils avaient encore un président comme Aulas qui remettrait les pendules à l'heure. Mais là, t'as une direction bicéphale, on se demande, ils sont où? Ils sont à Rodisney, c'est
bien marché. Quand au même début, pas, quand même. Tu peux pas, non.
Pas au début, ça a été les montagnes russes, hein, quand même. Gassé et Cayazo. Gassé, Cayazo et Romer.
C'est régulier en Ligue 1.
Eh ben ça a été régulier sous une personne qui a mis tout le monde d'accord.
Merci Simon. Dernière rubrique.
Alors est-ce que c'est les 2 ans?
Time Sport, le mode pressing.
Ah oui, je voulais en parler de cela. Les 2 dernières étapes de l'UAE Tour aux Émirats Arabes Unis annulées en raison du coronavirus. Les 2 dernières étapes de ce fameux tour de cyclisme ont été annulées. 2 membres d'un staff ont été testés positifs au coronavirus. Les coureurs sont confinés dans leur hôtel du côté d'Abu Dhabi et passeront un test de dépistage dans la nuit de jeudi, mais aussi à vendredi et aussi de vendredi à samedi. À ce rythme-là, en mars, toutes les compétitions, selon vous, sportives, vont être annulées ou reportées?
Moi, je pense
pas. Pose problème, peut-être.
Juste des, rapidement bon, sur l'UAE Tour. Ça, vu de France, quand on connaît pas trop le cyclisme, ça a l'air d'une obscure compétition lointaine. Non, aujourd'hui, dans le programme UCI, dans les préparations des compétiteurs pour les classiques flandriennes qui vont arriver au printemps, etc., c'est un passage maintenant qui est devenu très respecté et qui très disputé. T'as qu'à voir les gens qu'il y avait en tête, hein, Adam Yates, Tadej Pogacar, Lutsenko, Godu, enfin voilà. Il y avait du gros coureur, il y avait des gros sprinters, Groenewegen, Ackermann, etc. Donc non, c'est une grosse compétition. Ça, il faut bien le comprendre.
Ouais,
je pense que Kamel allait dessus après. Il faut bien comprendre que c'est pas la petite course qui a été annulée. Non, c'est une grosse compétition dans le calendrier UCI qui a été annulée. Donc oui, c'est un coup majeur pour le cyclisme. Et on peut se poser la question aussi de la préparation de ces cyclistes-là pour après. Parce que la préparation physique, c'est quelque chose de prépondérant dans le cyclisme. Et tu peux te demander si ces joueurs-là vont pas devoir subir des quarantaines, si ces coureurs-là, pardon, vont pas subir des quarantaines, vont pas subir des examens particuliers qui vont gêner leur progression pour arriver jusqu'à, pour eux, hein, c'est comme les athlètes, hein, ils s'entraînent, ils se préparent pour arriver à un zénith qui est soit le Tour de France pour certains, soit le Giro, soit la Vuelta, soit cet été, il y a peut-être les JO.
Alors, je suis d'accord avec Simon, mais au-delà du cyclisme, c'est le sport, en général, dans sa globalité. C'est le sport, et à un moment donné, ça va. N'oublions pas qu'il y a une semaine, 10 jours,
les responsables japonais disaient qu'ils n'étaient pas sûrs d'organiser les Jeux Olympiques, parce qu'avec le coronavirus, on ne sait pas où ça va. C'est, à un moment donné, ils l'ont pris, moi je pense qu'ils ont pris ce virus à la légère. Ils se sont dit, c'est cantonné, c'est pas un jeu de mots de ma part, en Suisse, en Chine, et ça va pas bouger. Mais là, ils se sont aperçus que ça commence, ça se propage à une vitesse folle. Donc, à un moment donné, plus vous allez faire des compétitions, que ce soit sportive, même ça va être des concerts, etc., vous allez propager. Et le problème de ce virus, c'est quoi? C'est que, sans faire le médecin de pacotille, parce qu'à un moment donné, faut être sérieux, le problème de ce virus, c'est qu'il est sous incubation pendant 14 jours. C'est-à-dire, ouais, vous pouvez le porter 14 jours sans que ça se voit. C'est pas comme une grippe ou une gastro où tout de suite, on le voit. Et donc, si pendant 14 jours, vous voyagez à travers le monde, vous le refilez à tout le monde. Donc, à un moment donné, ils vont se dire, ça se propage à une telle vitesse. Donc, ils vont être obligés de s'arrêter.
Ouais, et que ça soit,
quelles que soient les compétitions sportives, les concerts, il y a un moment donné, ils sont dépassés.
Et le métro seul... parisien.
Ouais. Oui, le métro, excusez-moi. Ah, Claude,
toi, tu veux faire peur à tout le monde,
Claude,
toi.
Tu as entièrement raison. Hier, j'ai pris le RER. J'avais un rendez-vous, oui. J'ai pris le RER, c'était une boîte à sardines. Certains, le type, c'est presque, t'es à 2 cm de ses lèvres. Au-delà du coronavirus, hein, ça peut être la grippe, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un truc.
Merci, Kamel. Au
niveau du coronavirus, ouais, il y a un moment donné, ils vont être obligés de s'arrêter, ils vont être obligés de faire quelque chose.
Allison.
Toutes les compétitions, rapidement, pense, vont venir à être annulées. Et Kamel en parlait très bien.
Oh, ça, là, c'est dommage.
Ça s'étend au-delà du sport. On voit des salons de l'automobile annulés, des gros événements aussi, ouais, même en France, annulés, mais à l'échelle sportive, vu que tout le monde est amené à se croiser, forcément, donc c'est des risques encore plus accrus d'attraper ou de transmettre le virus. Donc au bout d'un moment, on sera obligé de stopper, de voir comment on peut faire pour amenuiser le
coronavirus. Oui,
forcément, c'est
annulé. On termine avec toi,
ouais, non, le coach Etolé. C'est un vrai flou artistique, mais au-delà même du sport, c'est-à-dire que là, on parle du,
oui,
sport,
ça dépasse le sport,
même au
de loin.
Moi, je suis à l'éducation nationale. Je sais qu'il y a une académie qui a repoussé les vacances d'une semaine pour pouvoir s'organiser pour la rentrée. C'est vrai que là, on...
Le match Irlande-Italie aussi. Voilà,
c'est un peu le... Mais surtout qu'en France, il n'y a aucun contrôle.
Le tournoi destination.
Oui, voilà, donc
en France, il n'y a aucun contrôle.
Et le problème,
j'ai
c'est
peur
que...
ça à la légère en France.
Ouais. Voilà, bah, la France, ils ont pris ça à la légère. Et là,
selon vous.
Et là, moi, j'ai beaucoup suivi. Ils ont pris ça à la contrôle. Moi, je connais des gens qui travaillent à l'aéroport. Ils m'ont dit, dès décembre... Dès que ça a commencé le coronavirus, les États-Unis, ils ont fermé toutes leurs...
Exactement.
Ils ont bloqué tous les avions et tous les vols. Dès décembre, ils ont bloqué les... On peut dire ce qu'on veut des Américains. On peut les aimer ou pas les aimer, c'est pas vrai. Depuis décembre. Donc là, je veux dire que là, les Français, ils prennent ça à la légère. Même dans les aéroports français, à Charles de Gaulle, etc.
Il n'y a pas de contrôle.
Il n'y a aucun
contrôle.
Il
n'y
a aucun contrôle
de température.
On comprend bien, quand même. C'est bien de rappeler. Oui.
Rapidement, parce alors, que quand même, ça part d'une on part d'une compétition cycliste, ouais, au début. Juste bravo à Tadej Pogačar, le Slovaque,
ouais, bravo,
qui fait bravo.
Il faut le dire, Simon.
Bravo,
je t'en remercie. Simon Balachev, merci Simon.
Il confirme sa bonne
pour cette pertinence d'informations concernant le cyclisme, mais aussi à toute l'équipe de Tam Sport, Alison Nkunku, Kamel Nkaira et Coach Tolé. Rendez-vous lundi prochain, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Dimanche, 18h-20h, l'émission demande.